de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer? Comment la science infuse?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour notre rendez-vous mensuel avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique, Carole Châtelain pour Science et Avenir, Cécile Lestienne pour Cerveau et Psycho, Thomas Cavaillé-Folle pour Science et Vie et Philippe Hénarejos pour Ciel et Espace, qui vous offriront, vous le savez d'ailleurs, quelques exemplaires de leurs magazines respectifs. Vous pouvez d'ores et déjà nous les demander par mail ou sur notre page Facebook, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Nous en chercherons dans l'univers de l'eau, car il y en a sous le sol de Mars, sur Europe et même sur Pluton, sauf que la présence d'eau n'indique pas forcément la présence de vie. Pourquoi ce duo, l'eau et la vie, est si rarissime dans l'univers? Du macrocosme au microcosme, on vous entraînera aussi jusque dans le secret de nos cellules pour découvrir une nouvelle discipline biomédicale, la multi-omique, qui pourrait révolutionner le traitement du cancer, entre autres. Révolutionnaires aussi les nouvelles techniques de transplantation qui permettent désormais de greffer une main. Comment le cerveau peut-il s'adapter, se remodeler pour se reconnecter à une autre main que la nôtre? Entre science et science-fiction, nous poursuivrons aussi une autre quête, celle d'un nouveau type d'onde gravitationnelle émise par la rotation de deux trous noirs massifs juste avant leur fusion. Entrer dans l'étrange danse des trous noirs autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Bienvenue. Bienvenue pour partager aussi, chers amis auditeurs et internautes, les débats au cœur de la science. Un tout nouveau cycle de conférences et d'échanges entre chercheurs de toutes disciplines, des sciences exactes aux sciences humaines, qui démarre demain, mercredi 3 mars, à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, en partenariat avec RFI. Une conférence forcément virtuelle, pandémie oblige, mais que vous pourrez suivre en direct ou que vous soyez sur notre petite planète à partir de 18h30, heure de Paris, sur la chaîne YouTube de la BNF et de RFI. Premier épisode autour de la question « Demain la vie ?» Point d'interrogation, tension et menace à l'ère de l'anthropocène. Trois chercheurs nous feront partager leurs pistes de recherche, de réflexion et d'interrogation sur notre avenir commun sur Terre. Car s'il n'y a pas de planète B, ça c'est sûr, il y a des pistes pour préserver et développer ce si précieux bien commun qu'est la vie. Encore faut-il être conscient des enjeux et des défis qui nous attendent. Et c'est tout le propos de ce cycle au cœur de la science qui commence donc demain à la BNF en partenariat avec RFI. On vous en reparlera et on s'en fera évidemment l'écho autour de la question comment la science infuse et se diffuse, notre système solaire et au-delà. Nous allons nous interroger sur la vie également, l'eau et la vie. Enfin, ça c'est un duo rarissime dans l'univers et c'est le dossier à suivre dans Ciel et Espace qui sort le 15 mars prochain. Philippe Hénarejos nous le fera partager en avant-première, juste après avoir célébré l'eau justement en musique avec François M. The Atlas Mountain. Je suis de l'eau sur RFI. Thank you. François, Andy Atlas Mountain sur RFI, je suis de l'eau. L'eau et la vie. Bonjour Philippe Hénarejos.
Bonjour.
Merci de partager ce dossier à paraître dans le prochain numéro de Ciel et Espace, consacré à un duo rarissime hein, dans l'univers, l'eau et la vie. Car si l'eau, créée en abondance, hein, vous le soulignez dans ce dossier depuis le Big Bang, est présente dans et sur ou sous de nombreuses planètes, des cratères lunaires aux glaciers ou aux océans cachés, il y en a vraiment sur pratiquement toutes les planètes du système solaire et au-delà, hein, sur de nombreuses planètes extrasolaires. Sauf que la présence d'eau ne suffit pas à faire émerger la vie ou à trouver de la vie. Ça, c'est un peu une déception pour les chercheurs aujourd'hui.
Oui, en fait, si c'était si simple, s'il suffisait qu'il y ait de l'eau pour qu'il y ait de la vie, ben, le système solaire en serait rempli. C'est d'ailleurs par cela que nous commençons ce dossier, qui est un état des lieux, en fait, des réflexions que se font les scientifiques sur, justement, les indices qu'il faut chercher pour rechercher la vie ailleurs. Et aujourd'hui, la tendance, ce qui nous est apparu, en tout cas on le développe sur les 20 pages de ce dossier, c'est que le slogan initié par la NASA qui était « Follow the water mm-hmm. », suivez l'eau,
pour trouver
point de suspension et vous trouverez la vie, il est un peu simpliste, évidemment, comme tout slogan. Et il est d'autant plus qu'on s'aperçoit que de l'eau, il y en a à l'état liquide. Hein, je parle à l'état liquide. Il y en a dans des proportions bien supérieures sur d'autres mondes du système solaire. Et que finalement, la vie ne saute pas aux yeux. Alors, on n'a certes pas beaucoup exploré, mais en tout cas, il n'y a pas une vie aussi grouillante et développée que sur Terre.
Regardez,
juste,
pas... oui,
juste un chiffre. Ce qui amène à cette interrogation, est-ce que l'eau et la vie sont un duo rarissime ? Et il semble que oui aujourd'hui, peut-être que plus tard ce sera démenti. Regardez, la Terre, quand on la regarde de l'espace, on a l'impression que c'est une planète remplie d'eau. 70% de la surface de la Terre est remplie d'océans. On se dit, waouh, c'est abondant. Or, ça représente 0,12% de son volume de la Terre. L'eau représente 0,12%.
Mais c'est assez peu au fond.
C'est 0,1%. Voilà.
C'est si assez peu finalement.
C'est très peu. Et si vous regardez un monde comme Titan, qui est un satellite de Saturne, qui se trouve à plus d'un milliard de kilomètres, qui certes a une enveloppe glacée, une surface glacée, mais en dessous il y a un océan liquide, eh bien cet océan représente 26% du volume de Titan.
Donc, il y a plus d'eau sur Titan que sur Terre.
D'eau que sur
Titan. Il n'y a pas de vie sur Titan.
Exact.
Hein.
Et ben, jusqu'à preuve du contraire, non. En plus, on a un engin qui s'est posé dessus. En tout cas, ça ne nous a pas sauté aux yeux. Bon, peut-être qu'il y a une vie bactérienne. Et donc, ça a mené quand même à une réflexion. Est-ce que finalement, pour que la vie apparaisse, on sait qu'elle a besoin d'eau, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas en plus, comme critère, un subtil dosage ? C'est-à-dire qu'il en faut assez, comme sur Terre, mais pas trop non plus. Et donc, on a interrogé tout un tas de chercheurs, que ce soit des chimistes, des exobiologistes, des astronomes.
Oui, parce pour avoir trop d'eau pourrait même nuire à la vie. C'est assez étonnant.
Mais oui, parce que certes, on est dans l'image que l'eau est apparue sur Terre dans cette espèce d'océan primitif, cette tambouille, cette soupe primitive énorme. Alors, l'eau est un solvant formidable qui permet aux molécules de se combiner, de se recombiner, etc., et de former des molécules plus complexes. Mais il apparaît que s'il y a trop d'eau, s'il n'y a que des océans, si on était par exemple un water world, une planète océan, vraisemblablement, ça aurait posé un problème parce qu'à un moment donné, il faut quand même des endroits un peu au sec pour résumer, hein, pas détaillé, mais il faut quand même des endroits un peu au sec et même plus que ça. L'eau est nécessaire, les océans sont nécessaires, mais pas forcément dans des proportions énormes. Donc, trop d'eau pourrait carrément noyer tout espoir de vie, en fait. C'est la réflexion, en tout cas, que les chercheurs se font et dont nous faisons écho de manière évidemment argumentée dans ce dossier.
Oui, parce que c'est vrai que même sur Mars, hein, où évidemment a atterri Persévérance et où on est en quête de formes, de traces de vie passées, on les cherche aussi dans l'océan qui est glace, qui est sous la croûte de la planète Mars.
Voilà, alors on parle... Mars n'a pas une place centrale dans ce dossier, mais toutefois, c'est vrai qu'à la lumière de l'actualité, on peut l'évoquer. Mars... La recherche d'une vie, même fossile, est primordiale. Parce qu'on sait qu'il y a 4 milliards et demi d'années, la surface de Mars et la surface de la Terre, vraisemblablement, se ressemblaient énormément. Avec une atmosphère épaisse, avec de l'eau en abondance, peut-être dans la bonne abondance, on ne sait pas.
Peut-être.
En tout cas, c'est pour ça qu'il faut continuer à chercher. Et que si dans ces conditions, on trouve les traces fossiles de ce qui aurait été une vie qui serait développée sur Mars, qui aurait survécu ou pas, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on trouve même les traces d'une vie disparue, ça serait une réponse formidable, parce que ça voudrait dire que là, on a deux planètes avec des conditions identiques ou pas. Faudra voir si la fenêtre est étroite ou si elle est large. Eh bien, quand certaines conditions sont réunies, la vie apparaît. Ce serait une formidable information pour la recherche de vie ailleurs. Et peut-être aussi, ça permettrait de documenter encore plus cette question, quelle est la proportion d'eau qu'il faut pour que la vie apparaisse.
Oui, parce que jusqu'à présent, seule la Terre, une grande exception, seule la Terre abrite l'eau et la vie. Dossier passionnant à lire dans Ciel et Espace, donc qui va sortir le 15 mars, mais qui sera en vente en ligne dès demain, voilà. Philippe Hénarejos.
En version numérique dès demain.
En version numérique dès demain, disponible et en vente. Et nous avons bien sûr quelques exemplaires que nous vous offrirons un peu plus tard, chers amis auditeurs. Nous vous les enverrons pour découvrir si ça vous tente, donc les aussi. Alors, non seulement l'eau et la vie, et pourquoi est-ce qu'il n'y en a que sur Terre dans ces proportions-là, mais pas seulement, parce que vous nous proposez aussi un autre article assez étonnant sur des futurs emplacements de spatioports en Europe. Kézako, qu'est-ce que c'est que spatioport?
Spatioport,
ce n'est pas des cochons de l'espace, on
est
d'accord.
Pas du tout. J'aimerais bien, ça nous rappellerait notre jeunesse.
Et c'est ça.
Mais non, les spatioports, ce sont les aéroports pour aller dans l'espace, en fait.
D'accord.
Ce sont des bases de lancement de fusées, tout simplement, comme on en connaît en Floride ou en Guyane. Alors, notre journaliste, Émilie Martin, a fait un petit peu la tournée et on s'est aperçu qu'en Europe, il y avait plusieurs projets de construire des bases spatiales pour lancer des fusées. Alors, ça ne va pas être des fusées forcément énormes. Mm-hmm. Il y en a au nord de l'Écosse, il y en a aux Açores, il y en a éventuellement en Espagne, en Allemagne.
Ça se développe vraiment en mer du Nord.
Voilà, ce sont ce qu'on pourrait appeler des micro-lanceurs, des lanceurs assez petits, parce qu'il n'a échappé à personne ces dernières ces derniers mois, que, par exemple, une société comme SpaceX lançait de plus en plus de satellites, de constellations de satellites, qui sont
des mini-satellites,
qui vont se coordonner entre eux, qui ont une tâche bien précise, qui est l'Internet à haut débit pour tous et partout. Et dans ce marché-là, dans cette perspective-là, l'Europe, finalement, n'a aucune base de lancement. Et ça peut être intéressant parce qu'on est à des latitudes moyennes, voire hautes, dans l'hémisphère nord. Et ça, c'est valable si on veut lancer notamment sur des orbites polaires, c'est-à-dire des orbites qui ne sont pas le long de l'équateur ou inclinées, comme ça peut être le cas depuis la Guyane ou depuis la Floride, mais des orbites qui passent par les pôles. C'est-à-dire que votre satellite, il va passer au-dessus du pôle nord, grossièrement, et au-dessus du pôle sud, et il peut rester toujours à la même place par rapport au Soleil, ça peut avoir un intérêt. Donc il y a des applications évidemment militaires, il y a des applications civiles et de télécommunications malgré tout, qui font apparaître ces nouvelles perspectives. Et donc, nous faisons l'état des lieux de ces projets.
De ces futurs spatioports qui seront finalement les premiers lancements pourraient démarrer, dès 2022
Oui, alors ça, c'est pour les plus optimistes. Dans le spatial, il y a parfois du retard, souvent
parfois,
du retard.
C'est ça.
Mais ça arrive, ce serait un peu sur le principe d'une société qui existe déjà, qui s'appelle Rocket Lab, qui a déjà une base de lancement, par exemple, en Nouvelle-Zélande, qui en prévoit une autre en Alaska, une autre en Californie. Vous voyez, c'est pour pouvoir couvrir, en fait, les différentes orbites et les différents marchés de ces petits satellites qui sont en train de se développer.
Et qui ne... Ça, alors, c'est quelque chose qui déplaît assez aux astronomes et aux astrophysiciens, parce que ça pourrait aussi, cette constellation, cette multiplication de mini-satellites au-dessus de nos têtes, risque aussi de fortement troubler les observations.
Absolument. Hein. On a traité ça dans deux enquêtes antérieures. Là, on n'y revient pas plus que ça dans cet article-là. Mais effectivement, là, c'est un autre sujet. Et ces constellations, c'est quand même... Une inquiétude grandissante pour le ciel nocturne, le ciel des astronomes, le ciel des radioastronomes. Parce qu'un satellite, ce n'est pas simplement un point non plus qui se déplace dans l'espace, c'est un point qui émet quelque chose. Mm-hmm. Il y a des antennes qui sont mises
et
sur
donc,
Terre.
Et donc, qui perturbent.
Donc, il y a de la pollution électromagnétique, en quelque sorte. Et finalement, le ciel des astronomes et des radioastronomes est en train, tout simplement, de s'effacer. Et puis, le ciel des astronomes, après tout, c'est le nôtre.
Et on donc, est bien d'accord. Nous bien... aussi, on a le droit. On aime droit. Bien aller regarder voilà, le ciel exactement. Et les étoiles. En tout cas, on vous renvoie, chers amis auditeurs et amateurs d'astronomie, sur le magazine Ciel et Espace, donc sorti, on l'a dit, le 15 mars prochain en kiosque et en vente dès demain en ligne. Quelques exemplaires sont évidemment à gagner. Il faudra attendre un tout petit peu qu'ils nous parviennent, évidemment. On vous renvoie aussi, bien sûr, sur notre chronique Ciel d'Afrique à retrouver tous les 15 du mois sur notre antenne et sur la chaîne YouTube de RFI. Avis à tous les amateurs de ciel étoilé. Merci Philippe Hénarejos d'être venu en direct Merci. Sous notre ciel et dans notre studio. On va vous laisser filer hein, dans votre rédaction pour accueillir virtuellement cette fois, mais en direct également, depuis sa rédaction de Science et Avenir, Carole Châtelain, qui va nous faire découvrir un nouveau type d'onde gravitationnelle émise par la rotation de deux trous noirs massifs. Rien que ça, bienvenue donc dans l'étrange danse des trous noirs sur RFI et sur ce morceau Gravitation, signé Isaac Delusion et Petit Biscuit. I'm picturing your face with millions of colors. Just to feel the empty space standing in between our mutual planets. Gravitationnel sur RFI autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Avec vous, Carole Châtelain, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne en direct avec nous depuis votre rédaction de Science et Avenir La Recherche pour partager cette étonnante danse des trous noirs supermassifs qui émettent, ça c'est parce que je l'ai lu dans Science et Avenir, juste avant leur fusion, un nouveau type d'onde gravitationnelle, c'est ça ?
Mais oui, c'est tout à fait ça. En fait, ce phénomène tout à fait étonnant a été enregistré par un programme américain, un consortium américain de télescopes qui s'appelle NanoGrav. Et en fait, qu'est-ce qu'on a vu en ondes radio ? On a vu une danse de deux trous noirs supermassifs. On appelle ça une danse parce qu'ils se tournent autour. Alors, qu'est-ce que sont deux trous noirs supermassifs ? Ce sont des trous noirs qui ne sont pas comme les autres. C'est-à-dire, ils ne proviennent pas d'une d'un effondrement d'une étoile sur elle-même. On ne sait pas très bien l'origine de leur existence, mais on les appelle supermassifs parce qu'ils font de plusieurs millions à plusieurs milliards de masses solaires, ce qui est absolument énorme.
C'est insensé, enfin inimaginable pour nous complètement.
Inimaginable, mais il y en a dans toutes les galaxies. Et lorsqu'ils se rencontrent, entre guillemets, ils commencent une danse à la vitesse de la lumière, ils se tournent autour pour fusionner. Et en fait, c'est cette danse macabre qu'ont perçue pour la première fois ces télescopes, et c'est vraiment un événement assez exceptionnel parce que ça génère ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. C'est comme si, parce que vous savez, depuis Einstein, on le sait, l'espace et le temps sont liés. On peut imaginer l'espace et le temps comme un immense tissu sur lequel les masses, les astres font des déformations, et dès que quelque chose bouge, ça provoque comme des vagues qui sont produites par ce mouvement en quelque sorte, et c'est cette danse provoque donc comme des petites vagues, hein, ça dure des nanosecondes, mais enfin on appelle ça des ondes gravitationnelles. Donc c'est la première fois qu'on perçoit ainsi la danse de deux trous noirs supermassifs là-bas, très 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 loin et hors de toute observation visible bien sûr. D'autant que les trous noirs n'émettent pas de lumière, comme leur nom l'indique.
Comme leur nom l'indique, effectivement. Et ça fait vraiment partie de cette nouvelle astronomie gravitationnelle. Depuis qu'on a détecté les premières ondes gravitationnelles, c'est vraiment une nouvelle fenêtre sur l'univers qui s'ouvre. Avec différents télescopes, différents moyens, différents consortiums, on arrive à détecter de plus en plus de différentes ondes gravitationnelles.
Alors, on avait déjà détecté des ondes gravitationnelles de trous noirs, mais qui n'étaient pas supermassifs. Donc, ça avait déjà été fait. Mais là, la méthode est tout à fait nouvelle pour le faire. En fait, c'est une méthode qui utilise des pulsars. Alors, qu'est-ce que ce sont des pulsars ? Ce sont des étoiles à neutrons, ce sont des étoiles en fin de vie qui s'effondrent sur elles-mêmes. Et en fait, en s'effondrant sur elles-mêmes, elles émettent de puissants jets d'énergie que la Terre reçoit. Enfin, on peut les percevoir depuis la Terre par pulsion en fait, mais encore une fois ces pulsions durent quelques
on les ressent pas comme ça,
mais elles sont d'une extrême extrême régularité, c'est-à-dire vraiment c'est atomique comme régularité, et une petite subtilité entre ces différentes pulsions laisse entendre qu'il se passe quelque chose, que quelque chose les perturbe, que des ondes gravitationnelles donc les perturbent, et c'est comme ça qu'on a réussi en observant 45 pulsars pendant plus de 12 ans, inutile de vous dire que l'étude a quand même été extrêmement précise, extrêmement longue, on a réussi à se dire qu'on avait détecté des ondes gravitationnelles. Alors, il faut quand même rajouter qu'il faut encore confirmer ce résultat. Vous savez, les précautions qu'on prend dans ces cas-là, c'est vraiment encore, il faut enlever le bruit parasite, enfin, il y a encore un certain nombre de choses à faire pour être bien certain de cette découverte, mais enfin à 90% chacun est d'accord. Et actuellement, il y a beaucoup d'autres programmes, notamment des programmes européens, des programmes australiens, qui sont aussi à l'écoute d'autres pulsars et qui pourraient ainsi nous dire qu'il y a quelque part ailleurs, dans des galaxies extrêmement lointaines, d'autres trous noirs en train de danser cette danse de mort.
Extraordinairement vertigineux comment les pulsars sont perturbés par l'étonnante danse des trous noirs. C'est de la science, c'est à lire dans Science et Avenir de ce mois de mars. Nous avons d'ailleurs quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditeurs, si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook. Vous gagnerez donc ce numéro de Science et Vie, la recherche. Vous pourrez aussi, Carole Châtelain, remonter le temps et l'espace jusqu'en Chine sur la trace des Romains. Des Romains Chine, il y a plusieurs découvertes troublantes, notamment des vestiges de termes romains qui ont été découverts en Chine, c'est ça, Carole ?
C'est ça, alors on passe à carrément autre chose.
Ah oui.
Alors, on connaissait les routes de la soie, on savait que effectivement la Chine avait commercé avec l'Occident, ça c'est bien connu, mais là, des chercheurs helvético-chinois ou chino-helvétiques, dans le sens que l'on veut, se sont regroupés, se sont mis ensemble pour étudier le cheminement inverse, c'est-à-dire le travail que les Romains ont fait envers la Chine, et il a été découvert, et ça c'est totalement nouveau, on le savait par des chroniques chinoises, mais ça n'avait jamais été concrètement observé sur le terrain, que les Romains eux-mêmes avaient parcouru cette route dans l'autre sens et étaient allés jusqu'en Chine. Et c'est effectivement une découverte tout à fait récente et tout à fait surprenante qui vient d'être faite en Mongolie intérieure, où un archéologue chinois a découvert des termes.
C'est ça, des termes romains. Vous montrez les images reconstituées de cette archéologie.
avec des termes qui sont chauffés par le sol, comme l'étaient les termes romains, c'est-à-dire c'était une méthode unique qui n'était connue qu'à Rome et qu'on retrouve là en Chine, c'est quand même complètement surprenant. Et l'utilisation de la brique également, qui n'était pas du tout connue en Chine. Mais il n'y a pas que ça, ces deux chercheurs suisses et chinois s'échangent désormais des informations et ont pu ainsi être certains que certains objets qui ont été retrouvés en Chine sont des représentations, notamment des statuettes, sont des représentations de légionnaires romains, parce que c'est des statuettes qu'on ne retrouve pas traditionnellement en Chine. Et puis, il y a quelque chose de plus anecdotique, mais assez amusant, c'est que dans la tradition populaire, cette présence romaine en Chine était finalement connue, puisque dans une région, la région de Gansu, il y a une fête traditionnelle qui a lieu toutes les années, où les Chinois, une fête, comment on pourrait dire, médiévale, mais là, entre autres, elle est antique, où les Chinois se déguisent en légionnaires romains et organisent une sorte de puits du fou de combat entre légionnaires depuis plusieurs années.
C'est étonnant, finalement, c'est cette mémoire collective qui permet de relire un peu l'histoire autrement, ou comme vous le disiez, les roues de la soie un peu à l'envers. Carole Châtelain, sur la trace des Romains en Chine, donc découverte assez troublante, à lire donc dans Science et Avenir, la découverte, image à l'appui. Merci beaucoup, Carole Châtelain, d'avoir été en ligne avec nous depuis votre rédaction. On aimerait bien vous voir en vrai, mais ce sera pour une prochaine.
Oh, mais ce sera pour bientôt, on l'espère.
On l'espère. À suivre maintenant dans Cerveau et Psycho avec Cécile Lestienne. Dossier sur les greffes de main. Oui, un exploit de plus en plus, peut-être pas courant, mais de plus en plus réussi. Comment ça peut fonctionner? Comment le cerveau peut se connecter à une main qui n'est pas la sienne? On s'interroge à l'écoute de Mathieu Bogart sur RFI, extrait de son dernier album en anglais, mais avec l'accent français. Am I crazy?
I like the blue, I like the green, I don't like to choose between. I like the two, you see what I mean. I like the blue and all the colors I've seen. I like the blue sky and the sea. I like, I do, I like this tree. Am I crazy? Orange is nice and so is yellow. Can't make my choice from my window. No better is no, a good world for me by the rainbow. I like to be, and I like the white light of the moon. I like the black night coming soon. Am I alone? Bedroom. Cause I like the blue sky and the sea. Oh, it's so beautiful to me. Am I crazy? Yes, today I do.
Mathieu Bogartz sur RFI, Am I crazy? Autour de la question, comment la science infuse, on peut décidément se poser la question. Am I crazy? Cécile Estienne, bonjour.
Bonjour Caroline, ravie de vous retrouver.
Eh bien moi aussi, ravie de vous retrouver. Effectivement, on peut se poser la question, est-ce que je suis fou? Est-ce que nous sommes folles? À la lecture de cet article publié dans Cerveau et Psycho, signé du professeur de neurosciences cognitives Scott Frey, sur les greffes de main, de plus en plus pratiquées avec succès. Alors on a du mal à y croire, à le comprendre. C'est un vrai défi pour ce professeur et pour ses collègues, finalement, de comprendre comment le cerveau arrive à s'adapter, enfin à se connecter, à commander une main qui n'est pas la sienne.
Oui, c'est absolument passionnant. En fait, c'est une fenêtre ouverte sur la neuroplasticité cérébrale. Comment le cerveau est capable de reprendre le contrôle d'une main, effectivement, que nouvelle. En fait, ce que nous avons, enfin, en tout cas, ce que j'ai appris avec cet article de Scott Frey, qui est donc professeur à l'université du Missouri, et qui s'occupe particulièrement de ces questions-là, c'est que la première greffe de main remonte à 1964. C'est quand même très ancien.
Ouais, ouais.
Et c'était l'œuvre d'un chirurgien équatorien qui a opéré ainsi un jeune marin de 28 ans qui avait perdu sa main droite dans une explosion de grenade. Mmh. Il lui a greffé une autre main. La greffe techniquement a réussi, puisque la main a commencé à être irrigué par le sang et tout ça, mais malheureusement à l'époque en 64, vous vous en doutez, toute la chirurgie était déjà relativement au point, mais pas les médicaments, les immunosuppresseurs, pardon, je ne trouvais plus le mot.
Pour lutter contre les rejets, le rejet de la greffe.
Voilà, c'est ça. Et donc, ils ont été obligés de réamputer le jeune homme quelques semaines après, malheureusement. Et du coup, ça a été beaucoup critiqué à l'époque, et d'ailleurs, ça l'est toujours, les greffes de main, vous savez, parce que ça demande au greffé de subir une intervention très lourde, une rééducation très longue, de prendre des médicaments à vie, ces fameux immunosuppresseurs qui ont fait certes beaucoup de progrès, mais qui ont quand même des effets secondaires et peuvent parfois augmenter les risques de cancer. Et ça ne sauve pas des vies, parce que contrairement à une greffe de cœur ou de poumon, vous pouvez vivre sans main.
Ça ne sauve pas des vies, mais ça les soulage et ça les aide quand même grandement.
Exactement. Mmh. D'ailleurs, c'est ce que disent les greffes. Après cette greffe pionnière de 64, la greffe qui a suivi, c'était en France en septembre 98. Le professeur Jean-Michel Dubernard, qui est à Lyon, a greffé la première greffe de main. Et puis deux ans plus tard, il a fait la première double greffe d'ailleurs de main. Voilà. Et d'ailleurs, toujours à Lyon, il y a au mois de janvier, je crois, ils ont tenté une double greffe bras-épaule. Voilà. Donc là, il est un petit peu tôt pour dire si ça a réussi, mais on l'espère. Évidemment, en tout cas, celui qui a été greffé en 2000, là, qui a reçu ses deux mains, Denis Châtelier, a toujours ses mains. Il y avait eu, au début de l'année dernière, en janvier dernier, je crois, une petite fête pour fêter les 20 ans de cette double greffe avant la pandémie et qu'on pense à autre chose.
Mais c'est vrai que c'est, y a donc, vous citez aussi le cas, alors je crois que c'est Mathieu qui vit depuis 21
Scott.
Ans. Mathieu Scott, c'est ça, qui vit depuis 21 ans. Avec une main greffée. Hein. Ouais,
voilà.
Ouais. C'est vraiment le record. Et qu'est-ce que ça nous apprend, Cécile Estienne, justement, parce qu'on se dit, donc, vivre avec la main d'un autre, il faut aussi que cette main, elle réponde aux impulsions de notre cerveau, ben, ça va très vite, ça permet aussi de comprendre comment le cerveau commande à la main, et ce qui se passe, c'est que, parce que ça paraît complètement, enfin, là, on a l'impression qu'on est dans le cyborg, là, totalement.
on est dans le cyborg avec les prothèses, plutôt, vous savez, des prothèses qui ont fait d'ailleurs beaucoup de progrès de ce côté-là.
Non, c'est plus le capitaine Crochet, on est d'accord. mais là, c'est une vraie main, c'est une vraie main.
Oui, c'est une fenêtre ouverte sur la neuroplasticité cérébrale, mais alors c'est possible parce que les nerfs périphériques sont capables de repousser. Vous savez, si vous avez un problème, un accident à la moelle épinière, ça ne repousse pas, donc vous êtes malheureusement paralysé, mais ce n'est pas le cas des nerfs périphériques. Donc, quand un chirurgien opère, fait ce type de greffe, il doit, c'est très long, il fait de la micro-couture, n'est-ce pas, la micro-chirurgie, pour raccommoder, si vous voulez, tous les fascicules. Les fascicules, c'est cette sorte de gaine dans laquelle passent les nerfs, enfin, toutes les fibres nerveuses qui sont les axones, les prolongements des neurones moteurs ou des neurones sensoriels. Donc voilà, c'est un peu comme une gaine avec des fils électriques à l'intérieur, si vous voulez. Il faut qu'ils raccommodent tout et en fait, les nerfs repoussent et recolonisent la main. Voilà. Et c'est ce qui permet que les actions motrices... Si je veux bouger, par exemple, mon index droit, c'est mon cortex gauche, un endroit de mon cortex gauche qui donne l'ordre des afflux nerveux qui descendent jusqu'à mon doigt. Et il y a des signaux retour qui indiquent que je suis bien en train de tapoter la table et qu'elle est dure et froide.
Voilà. Oui. Et tout ça se passe en nanosecondes, évidemment.
Exactement.
Et tout ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur les membres amputés, sur les douleurs justement qui peuvent subsister. C'est ça, ce seraient ces nerfs-là qui continueraient de...
Oui, oui. Alors, en fait, ce qui se passe souvent chez les amputés pas greffés, hein, voilà. Ce qui se passe souvent, c'est que si on leur dit, imaginez que vous bougez votre main droite, s'ils ont perdu la main droite, eh bien, on s'aperçoit que leur cortex gauche envoie toujours les mêmes... signaux nerveux, et c'est ce qu'on appelle les membres fantômes, et ça peut être assez désagréable parce que parfois ça provoque des douleurs, on a mal aux membres fantômes. Voilà, ce qu'on s'est aperçu aussi, ce qui prouve qu'il y a bien une réorganisation, c'est que parfois le cerveau agit un peu bizarrement, c'est-à-dire que si on demande à cet amputé de la main droite de bouger sa main gauche, donc à ce moment-là, son cortex droit se met en action, voilà. Mais aussi son cortex gauche, comme s'il y avait un dédoublement de la commande. Parfois aussi, la commande bouge complètement. On observe des activités aussi du côté du cortex qui contrôle les mouvements des lèvres. Voilà, quand on leur demande de bouger la main.
Donc ça, c'est vraiment la mise en œuvre de la plasticité, enfin des compensations, voilà. Des adaptations incroyables. Exactement. De notre cerveau. Hein.
Mais ce qu'on a vu chez les greffés, c'est que le cortex à nouveau se réorganise lorsqu'on les greffe, parce que notamment Scott Frey a pu faire des études avec des gens qui ont été parfois greffés 35 ans après l'amputation. Donc, vous en avez compte, pendant 35 ans, le cerveau s'était reconfiguré d'une certaine façon, mais quelques mois après la greffe, le greffé dont il parle là était capable de prendre un stylo et d'écrire.
Voilà. L'extraordinaire, vraiment, ça nous apprend énormément de choses. C'est à lire, hein. Cette extraordinaire recherche sur les greffes de la main, absolument passionnant, à lire dans ce numéro donc de mars de Cerveau et Psycho, dont nous avons, je vous le rappelle, un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Merci, Cécile Estienne, d'avoir été en ligne avec nous pour ces informations insensées, mais bien réelles et bien scientifiques. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, on n'arrête pas le progrès biomédical, comme vous allez le découvrir dans quelques instants, cette fois-ci avec Thomas Cavaillé-Foll de Science et Vie, qui va nous entraîner jusque dans le secret des cellules sur les traces d'une nouvelle discipline, la multi-omique. Vous ne savez pas ce que c'est, mais vous allez le découvrir juste après avoir écouté Gaëtan Roussel sur RFI, extrait de son dernier album « On ne meurt pas en une seule fois ». Tiens donc.
On ne meurt pas en une seule fois, on ne meurt pas en une seule fois, on ne meurt pas en une seule fois, on ne meurt pas en une seule fois.
meurt pas en une seule fois. Gaëtan Roussel sur RFI, extrait de son dernier album. Et on peut même vivre et revivre, surtout peut-être grâce à la multi-omique. Bonjour Thomas Cavalier-Foll.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct ici dans ce studio et de vous être relayé avec tout à l'heure Philippe Hénard et Jos. Expliquez-nous, Thomas Cavalier-Foll, ce que c'est que la multi-omique qui fait la une de Science et Vie de ce mois de mars.
Alors, c'est assez simple en fait, c'est la superposition de toutes les biotechnologies en omique. Ce qui ne vous aide pas.
Génomique.
Mais exactement, la plus connue d'entre elles est la génomique. Bon, je vais faire un petit rappel. Le séquençage du génome humain, en fait, ce n'est pas si vieux, hein, c'est au début de ce siècle. Mm-hmm. C'est donc, regardez, les 3 milliards de bases qui composent notre ADN. Ça a été finalisé en 2004, ça a été une véritable révolution. Mm-hmm. Il y a un des chercheurs là, pour ce dossier-là qui nous a dit on avait l'impression d'avoir vaincu la mort. Et c'est vrai, parce que regardez l'ADN de chaque individu humain, c'était un peu l'espoir de savoir quelle maladie génétique était possible, voir les mutations, et donc de vaincre la mort. Et
sauf qu'on n'a pas du tout vaincu la mort, et exactement. Beaucoup d'espoir et beaucoup de promesses.
Enfin, exactement.
Très intéressant, mais beaucoup d'espoir et beaucoup de fausses promesses.
Ouais, l'ADN ne dit absolument pas tout, en fait. Si on va faire quelque chose de très simple, on pense que l'ADN, du coup, influe le vivant. Donc il y a l'ADN, il y a les protéines qui influent le vivant. L'ADN crée les protéines. Si on a 20 000 gènes, on a 20 000 gènes qui sont actifs, nous. Eh ben, on devrait avoir 20 000 protéines. Ben, en fait, non, on en a 150 000. Donc, il y a quelque chose qui cloche là-dedans.
Il n'y a pas que l'ADN.
En fait, y a entre l'ADN et le vivant, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est ça, la multiomique, c'est aller plus loin. C'est la qualification de tout ce qu'il y a entre ces deux processus, en fait. Donc, ça commence, bien entendu, avec la génomique. On vient d'en parler. Mais après, l'ADN, lui, il est transcrit en un ARN messager. On en entend beaucoup parler de l'ARN messager,
notamment c'est avec les nouveaux vaccins contre la COVID-19.
En fait, l'ADN, lui, se situe dans la cellule, dans le noyau de la cellule, et pour qu'il sorte de la cellule, du noyau, il est transcrit en ARN messager. Et donc, l'étude de tous les ARN messagers faits par une cellule, c'est la transcriptomique, donc une autre omique, vous voyez.
Ah, et donc ensuite, ça rentre dans la multi-omique.
Exactement. C'est ce qui montre en fait quels gènes sont actifs, parce que chaque cellule a tous les gènes, mais quels gènes elle exprime en fait, quels gènes elle va exprimer. Ensuite, l'ARN messager, lui, il est traduit en protéines. Donc on a la protéomique, qui va être les protéines qui sont faites. En fait, voilà, il y a différents.
C'est
une sorte de millefeuille de l'activité cellulaire. Et c'est ça, la multiomique, c'est en fait l'agrégation de toutes ces informations incroyables.
Donc de pénétrer dans le secret, finalement, des cellules, de décrypter qu'est-ce qui est à l'œuvre à l'intérieur et qu'est-ce qui nous rend malade aussi. Parce
exactement.
Que du coup, cette multiomique offre des pistes de recherche, de traitement possible et pour plus tard, mais en tout cas de recherche aujourd'hui, alors notamment sur le cancer, on s'en doute bien puisqu'on parle de cellules, mais pas seulement.
Pas seulement, en fait, on en est encore au tout début là, de la multiomique parce qu'on a toute cette quantité de données qu'il va falloir analyser et en tirer des conclusions. Mais effectivement, vous le dites très bien, le cancer est assez particulier pour la multiomique, c'est que si on prend deux cellules du corps humain, elles vont avoir le même génome, mais elles n'auront pas les mêmes protéines, elles ne vont pas produire les mêmes protéines ou les mêmes ARN messagers. Et si on prend des cellules cancéreuses, par exemple, à différents stades de la maladie, elles ne vont pas produire non plus les mêmes protéines, elles ne vont pas produire les mêmes ARN messagers. Donc en regardant tout ça, en analysant toutes ces informations, on peut savoir en fait à quel stade, on peut espérer en tout cas savoir à quel stade de la maladie la cellule cancéreuse est. Est-ce que ça va rentrer en métastase? Est-ce que c'est plutôt en rémission? En fait, il y a toute cette information qui se cache dans la multiomique. Donc, comme je disais, on est encore au tout début, mais il y a quand même un petit test, plusieurs tests qui ont été faits sur les ARN messagers maintenant, pour savoir chez les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein, par exemple, si elles ont des risques
de rechute,
tout à fait.
Et du coup, le but, vous le dites hein, dans ce gros dossier hein, sur la multiomique, le but, c'est de dresser un atlas complet. Alors, j'ai bien lu de nos 37 000 milliards de cellules.
Oui, tout à fait. Mais en fait, jusqu'ici, en fait, on classait nos cellules en gros tas, comme les cellules de la graisse, les cellules musculaires, les... Et en fait, c'est vachement plus compliqué que ça. Chaque cellule, il y a des sous-groupes de cellules et des sous-groupes de cellules. Et ça, on s'en rend compte avec la multiomique. Il y a des cellules qui sont plus ou moins dormantes, d'autres qui sont complètement actives. Donc, effectivement, et c'est assez passionnant, il y a l'atlas du corps humain au niveau cellulaire qui est en train de d'être créé. Là, ça a commencé en 2017.
L'atlas du corps humain au niveau cellulaire.
Ouais, ça a commencé en 2017, du coup, et il y a un millier de chercheurs à travers le monde qui se sont, en fait, donné des parties du corps humain, et chacun est en train d'analyser toutes les cellules. C'était d'ailleurs comme ça qu'avait été analysé aussi le génome humain.
Le génome humain.
Oui, tout à fait. Il y a chaque
projet collaboratif, parce que c'est tellement énorme.
C'est énorme. Et du coup, nous, on dit très bien, ils ne savent pas quand ça va finir, parce qu'à chaque fois qu'ils observent, qu'ils analysent, ils trouvent de nouveaux sous-groupes de cellules et de nouveaux sous-groupes de cellules. Donc, on va avoir un atlas du corps humain pour le savoir pur, absolument incroyable.
Et puis, on s'en rend compte, hein, puisqu'on est en pleine pandémie, qu'on parle de ces vaccins ARN messagers, on s'en rend compte que cette recherche, elle pourrait aussi nous protéger de futures pandémies, mais vous le dites aussi de la cirrhose du foie, du vieillissement.
Oui, des antibiotiques.
Prévoir de nouveaux antibiotiques qui marcheraient et qui fonctionneraient. Donc, c'est vraiment un champ de recherche qui s'ouvre.
Oui, bien sûr, parce que les bactéries, par exemple, là on parle d'antibiotiques, les bactéries aussi produisent des protéines. Et donc, on peut tester un peu comment elles réagissent à certaines molécules au niveau des protéines qu'elles vont fabriquer ou qu'elles ne vont pas fabriquer. Et donc, ça identifier en fait de nouvelles molécules qui pourraient être des candidats pour être de très bons antibiotiques.
Pour en savoir plus sur la multi-omique, c'est donc à la une de Science et Vie de ce mois de mars, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditeurs qui nous écoutez loin d'ici. Merci beaucoup, Thomas Cavalier-Foll, d'être venu nous faire découvrir un nouveau mot, une nouvelle discipline, et puis un nouveau champ de recherche. Et surtout ça, on vous rappelle, chers amis auditeurs, que ces magazines, tous ces magazines Science et Vie, Cerveau et Psycho, Ciel et Espace, Science et Avenir, la recherche, sont bien sûr alors en vente, en kiosque, en France, et chez tous les bons libraires. La presse scientifique a besoin de vous, a besoin de nous, qu'on se le dise. Et Thomas Cavalier-Foll, on se retrouve en virtuel ou en présentiel, on ne sait plus maintenant, mais on espère le mois prochain pour une nouvelle infusion et diffusion de science en direct ou en virtuel, on l'a dit. Merci à vous. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à réécouter, à vous abonner à notre podcast, disponible sur toutes les plateformes, applications et sur RFI Pure Radio. À demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro. Pour vous servir, nous rendrons un chaleureux et même un joyeux hommage à Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste, formidable passeur d'humanité, de science et de culture, disparu le 8 février dernier. Il était venu ici même dans ce studio partager ses conversations sur l'invisible avec ses amis cosmologistes, astrophysiciens, poètes. Des échanges aussi astronomiques que poétiques et joyeux. Vous le découvrirez demain si vous le voulez bien. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
Mondoblog avec l'Atelier des médias.
Bonjour.